La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes témoins et acteurs de l'histoire. Une émission enregistrée en public au rendez-vous de l'histoire de Blois, le rendez-vous annuel de tous les passionnés d'histoire. Nous avons installé notre studio dans l'atmosphère conviviale du café Fluxus, que je remercie chaleureusement pour son accueil. Et avec nos invités Françoise Blum, Ophélie Rion et Paul Boulan, nous vous proposons de découvrir les itinéraires croisés de militantes et militants anticolonialistes de l'Empire français à l'État-nation, en écho à leur table ronde Indépendance, présentée ici à Blois. Bonjour Françoise Blum.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste d'histoire sociale africaine et vous vous intéressez aux luttes syndicales et politiques menées dans les années 40, 50, en AOF, en AEF, en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, par des femmes et des hommes dont les destins sont très différents, mais tous partagent un même combat, c'est celui de l'anticolonialisme. Alors avant d'écouter leurs témoignages, revenons, si vous le voulez bien, sur le contexte international de cet après-guerre dans lequel ils évoluent.
Bien sûr. Alors l'après-guerre, ou plus exactement la guerre, a changé beaucoup de choses et l'Empire français ne sera jamais le même après 45, bien entendu. On connaît une des dates clés qui est celle de la conférence de Brazzaville tenue en 44 à Brazzaville, bien entendu. Évidemment, la donne ayant changé, la guerre d'une part, mais aussi l'opposition des États-Unis, de l'Union soviétique au colonialisme, l'Empire français et de Gaulle sont obligés de changer. Seulement, à Brazzaville, il va être question d'abolir le code de l'indigénat, c'est une chose, mais il n'est pas encore question d'indépendance.
Alors si en 44, effectivement, cette fameuse conférence de Brazzaville n'est pas, à proprement parler, l'acte 1 de la décolonisation, c'est à Brazzaville que de Gaulle a évoqué, je cite, « la condition de l'homme » comme étant l'enjeu de la guerre. Et c'est bien la question des statuts des Africains dans les colonies qui est un enjeu.
Bien sûr, c'est la question des statuts, et ce statut va être complètement bouleversé après la Deuxième Guerre mondiale. D'un côté, les colonisés ont pris conscience que la puissance impériale était faillible, plus que faillible dans certains cas. Et d'un autre côté, le contexte international, l'évolution des mœurs, je dirais de façon générale, va obliger l'Empire à se transformer profondément. Par exemple, en adoptant la citoyenneté pour tout ce qui était jusqu'à présent des sujets.
Alors en 58, de Gaulle est rappelé aux affaires, le plus illustre des Français est chargé de sortir la France de l'impasse de la guerre d'Algérie, et c'est alors qu'il propose d'octroyer l'indépendance dans le cadre d'un partenariat appelé Communauté française. C'est un partenariat qui est soumis au vote, et les électeurs de la métropole et des colonies doivent se prononcer dans le cadre d'un référendum. Il s'agit de dire oui ou non à la nouvelle constitution proposée, et pour promouvoir le oui, le général de Gaulle entame une grande tournée africaine et bien sûr, il fait étape à Brazzaville.
Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous? C'est celui de la communauté. Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires forment ensemble une communauté dans laquelle, je le répète, chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même.
Nous sommes le 24 août 1958. De Gaulle fait campagne pour le oui à la communauté française. Mais n'est-ce pas la construction d'un mythe, hein? De Gaulle, grand émancipateur de l'Afrique, Françoise Blum.
Bien sûr que c'est un mythe, parce que l'émancipation de l'Afrique a été pensée, voulue par la plupart des Africains, et l'après de l'Empire a été pensé aussi par les Africains. L'indépendance, les indépendances ne vont sûrement pas être octroyées. Elles sont le résultat d'un processus d'assez long terme entre des partenaires qui étaient d'un côté les représentants de la puissance coloniale, de l'autre les leaders entre guillemets des Africains. Mais les Africains n'avaient évidemment pas tous la même idée de l'indépendance et surtout la même idée de la manière dont les indépendances devaient être acquises.
C'est donc une question de lutte et une question de moyens. Quels moyens on choisit pour accéder à l'indépendance? Des luttes qui parfois ont pu être très violentes, comme au Cameroun, où Ruben Umniobe, le leader de l'UPC, hein, l'Union des Populations Camerounaises, est traqué et abattu le 13 septembre 1958. Écoutez le témoignage de son fils Daniel.
Umniobe, son action, ce n'était pas seulement limitée au Cameroun, mais ça allait au-delà, c'était toute l'Afrique centrale et même au-delà. Quand Umniobe ose aller à l'ONU réclamer l'indépendance, s'opposer aux autorités de tutelle, les autres peuples disent, mais si lui le fait, nous aussi on peut le faire. Donc, pour le gouvernement français, il ne faut pas oublier qu'il y a Dien Bien Phu derrière, il y a Ho Chi Minh derrière, et mon père qu'on appelait d'ailleurs le Ho Chi Minh camerounais. La France ne veut plus vivre la même chose qu'au Vietnam. Il y avait aussi à côté, aussi là, il ne faut pas oublier l'Algérie. Donc, ce qui fait que le Cameroun va servir d'exemple au niveau des massacres. C'est-à-dire qu'on va faire de Umniobe un exemple pour montrer aux autres leaders qui veulent se soulever ou se couturer aux autres. Regardez le sort qu'on a réservé à celui qui était votre modèle. Regardez le sort qu'on lui réserve. Et c'était la répression vis-à-vis de la population, mais d'une sauvagerie que je n'arrive pas à décrire parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore sous le coup de l'émotion.
L'émotion du fils de Ruben Umniobe, dont le corps a été exhibé et profané dans la Sanaga maritime, dans le sud du Cameroun. Le dieu qui s'était trompé est mort, annonce triomphalement un tract tiré à des milliers d'exemplaires. Est-ce que cet épisode est encore tabou, Françoise Blum?
Je pense qu'il le devient de moins en moins, mais c'est vrai que ça a été longtemps un point noir, à la fois dans l'historiographie et dans les mémoires. Évidemment, l'Algérie a occupé le devant de la scène pendant un long moment, et le Cameroun, on l'a occulté, on a oublié qu'il y avait eu une guerre qui d'ailleurs n'est pas sans rapport avec la guerre d'Algérie, parce qu'il y a eu quelquefois les mêmes troupes, les mêmes techniques. On a parlé aussi de l'usage du napalm au Cameroun, j'en suis pas spécialiste, donc je peux pas affirmer, mais il y a eu toute une série de pratiques, de terres brûlées, de pratiques militaires, qui ont ressemblé étrangement à l'Algérie. Simplement, le Cameroun était plus loin de la métropole, ce n'était pas un département. Je rappelle que le Cameroun n'était d'ailleurs même pas une colonie, stricto sensu, mais un territoire sous mandat, ce qui rendait les choses un peu différentes. Et donc les horreurs, parce qu'il y a eu des horreurs de la guerre du Cameroun, ont été occultées. Elle a commencé en 55, mais elle a quand même duré ensuite, après l'indépendance de 60, pendant une bonne dizaine d'années. Et les assassinats se sont succédés. Là, on a parlé donc l'assassinat de Ruben Umniobe, mais il y a eu ensuite l'assassinat de Félix Moumier à Genève, dans des conditions très bizarres. Il semble que ce soit la Main Rouge qui l'ait tué. Il y a eu ensuite l'assassinat de ce grand militant qui a été Hossein Diafana, dont, dit-on, la tête a été rapportée à Aïdjo. Et il y a eu aussi, en dernier, je dirais, Ernest Ouandié, qui a été fusillé en 1971. Donc la guerre du Cameroun, c'est les maquis, c'est une série de morts tragiques. Et c'est une des horreurs de la décolonisation.
Est-ce que la guerre du Cameroun, menée par les Français contre les nationalistes camerounais, a pour objet de faire un exemple?
Ça, franchement, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas persuadée. Je pense qu'il y a eu des mécanismes internes au Cameroun qui se sont mis en place, une insurrection, etc. Je ne m'autoriserai pas à juger pour savoir si c'était ou non un exemple. Je pense qu'il faudra attendre plus d'études sur la guerre du Cameroun. Il y a eu un gros livre très intéressant, Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa, sur la guerre du Cameroun. Mais il y a aussi actuellement toute une série d'études en cours. Et je pense que c'est là que l'on trouvera la réponse ou les réponses aux questions qu'on se pose encore sur cette sale guerre.
Est-ce que vous attendez justement des réponses sur la guerre du Cameroun à travers la prochaine ouverture d'archives?
Oui, bien sûr, dans les archives, il y a déjà des archives ouvertes que l'on peut consulter sur la guerre du Cameroun. Il semblerait même, ça c'est un détail mais intéressant, qu'il y aurait quelque part au château de Vincennes le carnet des rêves d'Oum Niobé, qu'avait consulté Achille Mbembe dans le temps et qui a plus ou moins disparu. Est-il vraiment au château de Vincennes? Est-ce un mythe? Mais ce carnet des rêves aurait été le lieu où Oum Niobé marquait ses rêves et il en déduisait certaines stratégies de maquis. Donc vous voyez, il y a des pièces spectaculaires qu'on retrouvera peut-être ou peut-être pas, mais il y a aussi tout ce qui est archives ordinaires qui pourront aider, qui aident déjà à faire cette histoire du Cameroun, sans parler bien entendu des entretiens à faire sur place.
Les militants anticolonialistes sont aussi des militantes, Ophélie Rillon, des femmes qui se sont levées pour dire non à la colonisation, des femmes dont les traces de l'existence même sont très difficiles à retrouver. C'est donc un véritable défi pour la jeune chercheuse du CNRS que vous êtes de travailler à reconstituer leurs itinéraires. Comment s'y prendre ?
Comment s'y prendre ? Alors, il faut multiplier les sources, les inventions, faire preuve d'imagination, en fait, pour retrouver les traces de ces femmes qui ont été beaucoup moins photographiées, beaucoup moins enregistrées que leurs homologues masculins. Voilà, donc forcément, il faut chercher. Elles ont aussi beaucoup moins écrit. Voilà, c'est ça qui est important. Elles ont laissé moins de traces dans les archives, moins de lettres, moins de comptes rendus, parce que la scolarisation des filles dans les différents empires coloniaux est beaucoup plus tardive que celle des garçons et largement négligée.
Alors la femme que vous avez choisie est malienne et elle a écrit, puisqu'elle a écrit sa biographie, elle est une grande figure politique. Awa Keïta a été la première femme députée de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Elle fait donc partie de la première génération de femmes lettrées africaines. À l'époque, elle n'était que quelques centaines, il faut quand même s'en rendre compte. Elle est diplômée, elle est sage-femme et elle écrit même qu'elle est la seule jeune fille émancipée, selon ses propres mots. C'est quand même fascinant de réfléchir et de repenser au contexte dans lequel se retrouve Awa Keïta. Quel est son profil militant à l'époque ?
Alors, Awa Keïta va militer progressivement, en fait, venir à l'engagement progressivement. Elle date de 1935, l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie, sa prise de conscience politique. C'est une révolte contre le colonialisme des puissances européennes. À l'époque, elle est mariée avec un jeune médecin, qui va l'initier, en fait, au militantisme politique. Ensemble, ils lisent la presse politique, ils militent tous les deux, même si son mari lui conseille de ne pas se mettre trop en avant. Et notamment, ils s'engagent tous les deux en 1946 à l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain, le parti anticolonial, créé au Mali, ancien Soudan français. Mais à cette époque-là, son époux lui demande de ne pas se mettre en avant et elle organise des réunions clandestines, donc de femmes, dans sa maternité avec ses patientes.
Et puis en 1956, elle va fonder l'intersyndicat des femmes travailleuses, mais elle doit aussi se battre à Awa Keïta au sein de sa société traditionnelle malienne, comme elle l'évoque dans ses mémoires. Le 8 avril 1959, jour des élections, tous mes colistiers étant partis pour les régions difficiles, la surveillance des opérations de la ville et des faubourgs me fut confiée. Mes assignés, le chef de village, me reçut en hurlant en français « Bambara et Mianka, sors de mon village. Il faut que tu sois non seulement audacieuse, mais effrontée pour accepter de te mesurer aux hommes en acceptant leur place. Mais tu n'as rien fait, c'est la faute des fous dirigeants du RDA. » Notre pays de vaillants guerriers, de courageux anciens combattants de l'armée française, avoir une petite femme de rien du tout à sa tête, non, pas possible. Moi, sergent-chef de l'armée française, ayant combattu les Allemands, accepter d'être coiffé par une femme, jamais. J'ai envie de dire, c'est double peine hein, pour les femmes militantes, anticolonialistes, africaines, Ophélie Rillon.
Oui, tout à fait. À la fois, elles doivent se battre à l'intérieur de leur parti pour avoir une place, et Awa Keïta le réussira très bien. À partir de 1958, le RDA la nomme commissaire à l'organisation des femmes, et en 1959, Donc, elle raconte cet épisode parce qu'en fait, elle mène campagne législative pour être élue députée de l'Assemblée de la Fédération du Mali. Mais donc, déjà à l'intérieur de son parti, elle doit se battre. Ensuite, elle doit se battre contre l'administration coloniale. Awa Keïta va être mutée à plusieurs reprises pour ses prises de position politique. Elle est considérée par l'administration coloniale comme une communiste, en fait. Donc, elle est régulièrement mutée. Et elle doit se battre avec sa société, les normes patriarcales de sa société, et notamment ce chef de village qui ne supporte pas que le RDA ait placé une femme sur les listes pour la députation.
Et pourtant, Awa Keïta, au-delà de l'indépendance, hein, en 62, va pouvoir obtenir la promulgation d'un code du mariage au Mali. Elle va réussir ce passage aux indépendances.
Oui, alors ce code du mariage publié en 1962 au Mali est un code assez révolutionnaire. Le Mali est le premier pays d'Afrique de l'Ouest francophone à publier un code du mariage. Awa Keïta et d'autres militantes réclamaient ce code depuis la fin des années 50, ont œuvré à la rédaction de ce code. C'est un code qui laïcisait le mariage, qui rehaussait l'âge des filles au mariage, qui en faisait un contrat civil, voilà, sur un modèle en fait français, qui interdisait la répudiation. Par contre, Awa Keïta donc, est la seule députée au moment où elle défend le code à l'Assemblée nationale du Mali en 1962 et elle ne parvient pas à faire, seule femme députée, elle ne parvient pas à faire passer certains articles comme l'interdiction de la polygamie qui lui tenait à cœur avec d'autres femmes lettrées. C'était une revendication importante pour elle. Ça ne va pas passer face à cette Assemblée masculine. Au passage, seules les femmes lettrées revendiquaient l'interdiction de la polygamie. Ce n'était pas forcément le cas d'autres femmes. Et autre combat que Awa Keïta va enterrer à l'indépendance, c'est le combat de la lutte contre l'excision. En tant que sage-femme, c'était un combat qui lui tenait à cœur. Au Mali, elle n'en parlera plus. Et c'est uniquement dans les conférences à l'international qu'elle se fera la pourfendeuse de l'excision.
Si les femmes militantes ont du mal à être prises au sérieux par les hommes, à l'inverse, certains dirigeants africains ont construit leur propagande sur les figures féminines. C'est le cas de Sékou Touré en Guinée.
Le 9 février 1955, Malia Camara fut lâchement assassinée à Tandon par le sabre des supports de ce honteux régime défunt. Le sacrifice de Malia Camara eut le don de galvaniser l'énergie du peuple tout entier. Partout, l'hydre colonialiste fut harcelé de toutes parts par les militants du PDG, tant et si bien que le 14 mai 1957, à l'occasion du 10e anniversaire de sa naissance, le Parti démocratique de Guinée installa le premier gouvernement du peuple qui devait supprimer la chefferie dite traditionnelle et organiser le pays sur des bases démocratiques.
Le sacrifice de Malia Camara chanté par le Bembeya Jazz, quel meilleur vecteur que les chanteurs pour vulgariser le message de la révolution guinéenne auprès d'une population majoritairement analphabète. Les voix des militantes et des militants anticolonialistes sont dans la marche du monde, enregistrées au café Fluxus de Blois. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire où nous nous retrouvons juste après les infos sur RFI.
Le 2 octobre 1958, dans l'allégresse et dans la ferveur, la République indépendante de Guinée fut proclamée. De 1958 à 1964, continuant sa progression, le Parti démocratique de Guinée se transforma en un véritable parti de démocratie nationale, groupant tout le peuple.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la Marche du Monde, rendez-vous de l'histoire de Blois où plus de 45 000 visiteurs sont venus rencontrer leurs auteurs préférés lors de conférences et tables rondes autour des empires. C'est le thème 2015. Merci de nous avoir rejoints au Café Fluxus pour l'enregistrement de cette émission consacrée aux militantes et aux militants anticolonialistes africains. Ils sont acteurs de leur indépendance, c'est ce que nous évoquons Françoise Blum depuis le début de cette émission et cela nous amène à interroger l'évolution de leur statut. Que se passe-t-il pour les indigènes et autres colonisés de la République dans le cadre de cette communauté française proposée par De Gaulle et massivement acceptée lors du référendum de 1958 ?
Massivement acceptée, sauf pour ce qui est des territoires par la Guinée, comme on le sait, puisque la Guinée a voté non au référendum. Bon, ceci dit, il y a eu beaucoup de façons d'être anticolonialiste. On pouvait être anticolonialiste en négociant avec la métropole. C'est ce que des gens comme Senghor, comme Modibo Keïta ont été. On pouvait être anticolonialiste en pensant qu'il fallait, pour préparer l'indépendance, qu'il fallait une révolution. Et ça, ça a été le cas des étudiants en général et des syndicalistes de l'UGTN en particulier.
Comment se situent les militantes et les militants par rapport à la question de la nationalité française ?
Alors, les militants, c'est difficile de généraliser, mais ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup de militants ont refusé, après l'indépendance, de prendre la nationalité française, alors que ça aurait été extrêmement simple d'être à la fois français et, je sais pas, sénégalais, etc., etc., sauf pour la Guinée, bien entendu. Ils ont refusé par idéal, ils ne voulaient plus être français, et aussi, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, et ça a duré très tard, jusque dans les années 73-74, il y avait toute liberté de circulation et d'installation entre la France et ses anciennes colonies. C'est un élément qu'on a tendance à oublier maintenant quand on parle d'immigration, d'immigrés, etc. Mais il y a eu toute cette espèce de no man's land après les indépendances où ce n'était certes plus l'Empire, ni l'Union française, ni la communauté, mais il y avait encore un espace particulier et on peut même dire, et ça le montre très bien le dernier livre, l'avant-dernier maintenant, livre de Frédéric Cooper, que les négociateurs africains et français avaient essayé de penser, avant les indépendances, un espace supranational qui dépasserait l'Empire, mais sans retomber, je pourrais dire, dans les méandres quelquefois compliqués de l'État-nation. Penser quelque chose qui serait au-delà de l'État-nation, mais bien entendu, où tout le monde serait égal.
Indépendance, tcha-tcha.
Militantes et militants anticolonialistes sont à l'honneur ici à Blois dans le cadre de la table ronde proposée par mes invités Françoise Blum, Ophélie Rion et Paul Boulan, puisque leurs itinéraires biographiques vont faire leur entrée dans le métron Afrique. Alors quel est ce projet, Paul Boulan ?
Alors le métron Afrique, c'est un projet qui s'inscrit plus généralement dans le projet qu'est le métron, donc le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social, au départ en France, mais qui s'est étendu à d'autres pays, aussi bien en Europe qu'en Asie, puisqu'il est traité aussi de la Chine et du Japon. Et donc c'est un nouveau projet qui cherche à mettre en avant les itinéraires biographiques, reconstituer les parcours de ces militants, les acteurs aussi bien des organisations que des mobilisations. Et l'objectif est donc de comprendre les logiques de ces engagements et ces formes au fur et à mesure du temps.
Alors est-ce que cela veut dire par exemple que Awa Keïta, dont on a parlé au début de cette émission, va avoir sa notice biographique, comment les gens vont pouvoir la consulter ?
Alors effectivement, elle va avoir et elle a déjà sa notice biographique qui est disponible sur le site internet Métron en ligne, qui est consultable, librement consultable sur le site, puisque ce projet Métron Afrique, contrairement à la tradition, on va dire, du Métron, du dictionnaire biographique Métron, est développé directement en ligne sur un site internet, ce qui évidemment permet un accès plus large et un échange aussi avec les collègues et des chercheurs de par le monde.
Alors, Jean Métron, c'est le fondateur du Métron, c'est celui en quelque sorte qui fait entrer l'histoire ouvrière à l'université, c'est l'histoire des petits, des obscurs, des méconnus. Est-ce qu'au fond c'est une autre histoire du communisme ?
Ah, ça dépasse largement l'histoire du communisme puisque le dictionnaire s'étend sur une période de 1789 à 1968 aujourd'hui. Donc ça dépasse largement l'histoire du communisme, c'est l'histoire du mouvement ouvrier dans son ensemble, depuis ses origines, ses premières formes, plutôt, on va dire, le socialisme utopique, etc., les premières formes de référence à la classe ouvrière, jusqu'aux formes plus organisées, le syndicalisme, le versant politique. Donc le communisme en fait partie, mais c'est plus largement l'histoire du mouvement ouvrier dans son ensemble.
Alors si l'histoire ouvrière française est aujourd'hui documentée, est aujourd'hui enseignée, que dire de l'histoire ouvrière des anciennes colonies africaines, Ophélie Rion, et donc des Afriques ?
Alors, c'est une histoire qui reste à faire. Les archives des syndicats français sont très utiles pour traiter cette histoire. Les archives aussi en Afrique, qui sont en cours de classement, sont aussi à explorer. Et il y a voilà des travaux récents par des jeunes chercheurs qui, je pense, vont nous ouvrir de nouvelles pistes.
Jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, donc vous faites partie, Ophélie Rion, et vous avez, pour vos recherches justement, rencontré Cheikh Sidia Diombana. Il est membre fondateur du syndicat des cheminots de l'AOF, l'Afrique occidentale française.
En 47, la régie du chemin de fer a décidé de faire cause commune, de brasser en quelque sorte tous les chemins de fer de l'AOF. Alors nous aussi, nous avons créé la Fédération des cheminots de l'AOF. Bon, il y avait des revendications très sérieuses parce qu'un ouvrier africain avait 600 francs alors que le même ouvrier européen avait 26 000 francs. Quand nous avons décidé de faire la grève, nous avons tenu un grand meeting. Tout CAI était là. Alors là, les autorités ont pris des mesures. J'ai demandé à rencontrer le chef de gare, c'est-à-dire l'inspecteur de l'exploitation, pour visite de courtoisie. Alors il nous a très mal reçu. Moi, je lui ai dit que moi, je ne suis pas français, je suis un nègre, mais je défends mes intérêts. Alors, ils m'ont amené au commissariat. Il y avait le commandant du camp de CAI, il y avait le médecin colonel, il y avait le commissaire, il y avait le délégué du gouverneur. Alors, ils m'ont mis au milieu d'eux. Alors, au demandant, il paraît que vous avez dit que vous n'êtes pas français. Nous vous demandons de nous répéter ça. Je dis, mais regardez ma peau là. Moi, je suis un nègre. J'ai bénéficié de la culture de la France. De la France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais pas de la France de cet homme-là qui essaie de sévir contre les Noirs.
La voix de Cheikh Sidia Diombana sur RFI, son combat est perçu comme une insulte à la République et pourtant c'est au nom des valeurs de la République qu'il le mène, Ophélie Rion. Quel paradoxe !
Paradoxe et en fait pas tant que ça. Et justement, c'est tout l'enjeu de ces combats syndicaux des années 40. Avant cette période des années 50, dans les années 40, les militants syndicalistes, et notamment cette grande grève des cheminots de 1947, réclament l'égalité des droits. C'est ce qu'évoquait Françoise Blum tout à l'heure. Et c'est fondamental parce que, en fait, c'est contre l'inégalité raciale, l'inégalité de traitement, et ils veulent les mêmes salaires, ils veulent que les auxiliaires de l'administration coloniale, ces Africains, finalement, soient payés comme les cheminots français. Donc voilà, donc il va y avoir une très grande grève qui va durer plus de 5 mois. C'est une grève très longue, largement suivie. Au départ, cette grève est totale. Elle va concerner 200 000 ouvriers et toutes leurs familles, familles avec les villages qui sont aussi mobilisés derrière ces cheminots. Et voilà, c'est une grève pour la reconnaissance de l'égalité. Et en fait, ils vont gagner d'une certaine manière. Leurs revendications vont aboutir, même si la métropole va largement attendre l'intégration des auxiliaires, va être très très longue en fait.
Mais au moment de l'indépendance, on va l'entendre, ce n'est pas forcément la liberté pour Cheikh Sidia Diombana.
Du temps de Modibo, nous ne pouvons pas nous réunir ici. Nous ne pouvons pas nous réunir devant ma porte, plus de 3 personnes. La milice populaire vient vous demander qu'est-ce que vous dites. Et puis, il y avait pénurie d'aliments partout. On nous amenait des haricots de cette grosseur-là de la Chine, des haricots rouges. Pour les cuire, il faut les mettre 24 heures dans l'eau. Ça rougit même l'eau qui les reçoit. Après, maintenant, il faut bouillir. Et puis, le lendemain, tu prépares. Nous avons subi tout ça. Et puis, pour avoir du tissu, il faut passer par le bureau politique qui te donne 3 mètres ou 6 mètres si tu es reconnu comme militant, bon militant. Alors nous qui étions indexés, c'est vous dire que nous n'avions rien. Nous étions obligés de passer par d'autres camarades pour avoir 5 ou 6 mètres. Et puis c'était des tissus de matelas, des tissus rayés. On s'habillait avec ça. C'était spectaculairement, on parlait de nationalisme. On parlait de tout, c'est très bien, mais la population souffrait atrocement.
Les militants anticolonialistes ne se font pas forcément une place au soleil des indépendances, Ophélie Rion, ce qui concerne le Mali de Modibo Keïta. Comment ça se passe pour ces syndicalistes du rail ?
Alors, pour ces syndicalistes du rail, en fait, plus largement, c'est qu'au moment de l'indépendance, dès 1959, même avant l'indépendance officielle du Mali, quand Modibo Keïta est déjà au pouvoir, une série de lois vont être édictées qui vont en fait participer de la mise en place du parti unique. La mise en place du parti unique qui s'accompagne de l'étouffement de toute voix dissonante des organisations féminines qui sont dissoutes, toute organisation autonome est dissoute et les organisations syndicales aussi. Et donc c'est contre ça que Diombana lutte, se révolte, parce que il a vécu cette libéralisation de la vie politique après 1945 et pour lui les indépendances ne devaient pas sonner avec cette réduction des droits.
Anticolonialistes sont maliennes mais aussi sénégalaises dans la marche du monde enregistrée à Blois et en public au Café Fluxus. Retour sur l'itinéraire d'un militant de la FEANF, la Fédération des étudiants noirs en France, devenu magistrat et même ministre, j'ai nommé Ousmane Camara.
En 1957, avec la naissance du Parti africain de l'indépendance, nous avons pratiquement tous étudiants, enfin l'embryon d'université qu'il y avait ici, nous avons été tous des militants de ce parti africain du PAI. Moi-même, j'ai été non seulement un syndicaliste étudiant, mais j'ai dirigé le seul journal étudiant qu'on avait ici, qu'on appelait Dakar étudiant, et je me suis retrouvé en France avec la perspective de faire un doctorat en droit, et le mouvement étudiant m'a complètement happé et je me suis mis, étant au niveau de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, chargé des relations extérieures. Et c'était le moment où la guerre d'Algérie, avec ses problèmes et ses conséquences sur nos camarades étudiants algériens en France, qui s'étaient regroupés en France sous l'UGMA, Union Générale des étudiants algériens, ça a créé un problème avec nos camarades français de l'UNEF. Et de fil en aiguille, l'UNEF ayant rompu avec l'UGMA, nous nous sommes trouvés, nous, FEANF, solidaires de nos camarades algériens, en rupture aussi avec nos amis français.
Ousmane Camara nous explique comment la jeunesse militante se retrouve déstabilisée par la façon dont la France donne l'indépendance au Sénégal.
Les puissances coloniales, en particulier en ce qui nous concerne la France, avaient essayé de parer au plus pressé, de faire l'espèce de peur du feu. Donc il y avait une classe de dirigeants préparés à prendre la suite. constitué principalement de cadres locaux, soit des médecins africains, des instituteurs. Et ce sont ces gens-là qui ont constitué l'ossature du gouvernement, à l'exception évidemment chez nous ici du président Léopold Senghor. Mais l'ensemble des dirigeants étaient constitués à l'époque des cadres moyens. À côté de ces gens-là, il y avait toute une jeunesse, dont moi-même, donc d'universitaires formés principalement en France et aussi ici. Ces deux catégories se sont trouvées pratiquement tout de suite en conflit. Les gens qui étaient préparés par les puissances coloniales à prendre le relais se sont vite installés dans le costume du colonisateur qui était parti sans être parti. Et les autres qui avaient lutté pour, avec cette vision de la guerre de libération algérienne et tout ça, et cette jeunesse-là qui s'est trouvée pratiquement prise de court par ces indépendances octroyées, lancées dans cette perspective d'indépendance arrachée, nous avons eu des indépendances octroyées.
Mais le président Senghor ne se prive pas longtemps des compétences d'une jeunesse indispensable à la construction de la nation.
Ici, au Sénégal, on a eu une espèce de modus vivendi. Les dirigeants étaient constitués de cadres locaux. Les jeunes intellectuels que nous étions, nous n'avons pas été, comme dans certains États, diabolisés, écartés. Il y a eu une espèce de symbiose. Très tôt, dès l'indépendance, on a eu la collaboration par les dirigeants. Ils ont pris des jeunes cadres, les premiers à sortir des écoles, tels que Abdou Diouf et d'autres comme Cheikh Amidou Kane. Tous ces jeunes-là ont été sélectionnés pour servir à des directions de cabinet ou à des directions de service. Senghor s'est rendu très vite compte qu'il lui fallait des gens pour remplacer. D'où cet appel d'air, l'entrée massive de jeunes cadres, comme moi par exemple. À partir de 1963, moi j'étais magistrat, procureur à Thiès, et directeur de cabinet du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui se trouvait être un des collaborateurs du président Senghor, André Guyabert. Donc, c'est cette logique-là de participation au travail gouvernemental qui m'avait amené aussi à occuper le poste du ministère public dans ce fameux procès de Momadou Dia en 62.
Ousmane Camara, ou comment un militant anticolonialiste se retrouve procureur du procès politique de Mamadou Dia, le plus célèbre de ses anciens camarades de parti? Quelle histoire, Françoise Blum? Est-ce que c'est un destin singulier?
Ce n'est pas un destin singulier. En fait, il y a eu plusieurs manières de négocier les indépendances. Celle d'Ousmane Camara en est une. Ousmane Camara était effectivement, avant 60, quand il était à la FEANF, considéré comme un extrémiste. C'est-à-dire que pas de concession, non réforme, etc. Il a été, il l'évoque, au PAI, bien entendu, au Parti africain de l'indépendance, mais aussi il a été un moment au Parti communiste français, section des provinces de France à la cité universitaire. Il y avait des désaccords avec le parti, là aussi il l'a évoqué, à cause de la guerre d'Algérie notamment. Il a été, il le raconte dans ses mémoires, porteur de valises pour les Algériens. Il allait en Suisse apporter des valises, etc. Et puis après, une fois que l'indépendance est là, il va parfaitement s'intégrer comme un des très hauts cadres du système, comme procureur. Il va d'abord exercer à Thiès et ensuite on va lui confier, si on peut dire, la charge d'être procureur au procès de Mamadou Dia. À sa décharge, s'il a besoin d'une décharge, il va faire un réquisitoire qui est assez modéré et les peines qui vont être finalement attribuées aux accusés vont être beaucoup plus lourde que celle qu'avait demandé Ousmane Camara. Simplement, certains en veulent un peu à Ousmane Camara parce que, ancien du PAI, il en connaissait tous les secrets et il a été amené à instruire des procès, une fois que le PAI était interdit, de ses anciens camarades.
Autre itinéraire sénégalais, celui de Hamat Dansoko, ministre dans le gouvernement de Macky Sall, alors qu'il a passé des années en exil à cause, justement, de son appartenance au Parti africain de l'indépendance, le PAI. Hamat Dansoko nous raconte son entrée en politique.
Je suis rentré en politique très tôt, en 48. Je suis rentré en politique par la passion de Senghor. C'est assez bizarre. Nous avions d'abord un directeur d'école communiste français qui éveillait les consciences. Et puis un jour, J'ai entendu dire qu'il y a un Sénégalais extrêmement savant. Il lui suffisait de regarder les arbres pour en connaître la quantité de feuilles. Et il venait de créer justement le BDS en 1948. Mon père était de la SFIO, grand notable de la SFIO, très respecté. Et je me suis pris d'une dévotion de Senghor extraordinaire. J'étais au CPO, CP2. Donc je me suis pris de passion pour Senghor. Et je ne l'ai plus jamais quitté jusqu'en 51.
La fascination pour Senghor de Hamat Dansoko, la figure du père. Alors pour Hamat Dansoko, c'est ensuite l'adhésion au PAI, parti panafricain et bientôt clandestin. Et la question de cette indépendance octroyée et non pas arrachée est au centre des préoccupations des militants du PAI. C'est donc aussi la question de la lutte armée dans laquelle Frantz Fanon est impliqué puisqu'il fait entrer des armes en Afrique noire via l'Algérie. Écoutez Hamat dans ce coup.
Ce que je sais, c'est que c'est Fanon qui a déposé ses armes à Conakry en 1959. Il y avait Oussé Dik qui a été le premier ambassadeur de l'Algérie en Union soviétique. Il était à l'époque le représentant du FLN à Conakry et j'ai été chargé d'aller chercher ses armes pour les faire rentrer au Sénégal. Et vous savez, les armes sont rentrées. Et 2 ans après, nous avons tenté l'insurrection à Saint-Louis.
En 61.
Oui, oui. Sous la pression de tous ces facteurs extérieurs et aussi de ce que l'on constatait dans le monde. Partout, en Amérique latine, en Afrique, dans le monde arabe. La révolution nasserienne aussi qui a pesé sur les consciences, une révolution communiste nasseriste. Ici, notre choix de l'arabe comme deuxième langue participait de notre volonté d'en découdre avec la domination coloniale. 63, nous avons envoyé des gens se former à Cuba, en grand nombre. J'ai voyagé à l'Afrique continentale avec Debré. J'étais souvent avec Josephine Becker. On était tout le temps ensemble. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne mangeais pas des cuisses de grenouille. Donc on a formé des gens pour venir faire la guerre de guérilla. C'était pas aussi farfelu que ça, parce que les Cubains étaient impliqués, les Algériens, Bendela, étaient impliqués, Nkrumah était impliqué et Modibo était impliqué. C'était une opération d'envergure.
L'incroyable témoignage de Hamat Dansoko impliqué dans le développement des foyers révolutionnaires en Afrique avec la complicité des Cubains et des Algériens. Que savons-nous aujourd'hui de cette affaire rocambolesque, Françoise Blum?
En fait, ça a effectivement été rocambolesque, mais c'était aussi on pourrait dire des croyants. Je veux dire, c'était l'époque des 1000 Vietnam, il faut s'en souvenir. C'était l'époque des maquis dans le monde. C'était l'époque de la guerre du Vietnam. C'était l'époque où Che Guevara, justement, prenait les armes. D'ailleurs, Che Guevara était en Afrique. Hein, on oublie souvent l'épisode congolais du Che. Et au Sénégal, même si cela paraît fou, il y a eu effectivement un maquis au Sénégal oriental en 1965. L'histoire de ce maquis est racontée par Sadio Camara dans ses mémoires, puisque Sadio Camara, qui était le commandant Alphonse dans le maquis, a été aussi lui formé par les Cubains, a été suivi des cours de guérilla à Cuba, et ensuite a pris les armes au Sénégal. Ils n'ont jamais tiré un coup de feu. Ils étaient obligés de se nourrir par-ci, par-là. Le maquis n'a abouti à rien, sinon ça se saurait, effectivement. Mais Et c'est là que je voudrais revenir sur les propos d'Hamat Dansoko. Il dit que c'est la passion de Senghor qui l'a entraîné en politique. C'était aussi le marxisme, hein, parce que le marxisme était l'idéologie la plus courante chez les opposants partout dans le monde. Et Hamat Dansoko avait été converti au marxisme d'une façon un peu curieuse, parce qu'on lui avait offert le fils du peuple de Maurice Thorez. Et il est devenu marxiste. Et beaucoup d'Africains à l'époque ont eu entre les mains quelques classiques du marxisme et sont devenus marxistes tout simplement parce que le marxisme semblait être l'idéologie de progrès et d'émancipation qui était alors à portée de main.
Paul Boulon, va falloir absolument faire rentrer Hamat Dansoko dans le métro Afrique, non?
Absolument, oui, ça fait partie des exemples qui illustrent ces engagements multiples pour le dictionnaire métro Afrique. Tout à fait.
Françoise Blum, cette approche biographique que vous partagez et développez avec le métro Afrique, n'est-ce pas l'occasion de sortir de cette dichotomie histoire du colonisateur, histoire du colonisé.
Bien sûr, parce que je pense qu'on ne peut pas faire l'histoire de l'un sans faire l'histoire de l'autre. C'est une histoire de connexion, c'est une histoire de rapport, c'est une histoire des fois de rapport de force, bien entendu, de rapport de domination, mais les dominés sont pas toujours ce qu'on croit. Donc il faut tenir compte de toute cette complexité du monde et ne pas gommer justement cette histoire de relation. Et je voudrais dire justement à ce propos que moi je travaille personnellement sur la FEANF, donc des gens qui ont fait leurs études en France et dont beaucoup ont été profondément anticoloniaux, ont été indépendantistes, véritablement nationalisme, mais ça ne les empêche pas quelquefois de s'être aussi sentis français, tout simplement parce qu'ils avaient une culture française d'excellence. Ils étaient biculturels. Et je dois dire que moi, je trouve que c'est des modèles qu'il faudrait suivre, surtout par les temps qui courent.
Merci à tous les trois et merci à nos grands témoins africains pour la sincérité de leur témoignage. Toutes vos références bibliographiques sont sur la page de la Marche du Monde sur RFI.fr avec bien sûr une présentation du Métron. Et vous pouvez également écouter l'émission de la semaine dernière consacrée aux indépendances au quotidien avec Odile Gergue, présente ici à Blois, et le témoignage exceptionnel de Roland Collin, collaborateur de Sangor et de Mamadou Dia. Il me reste à remercier le Café Fluxus pour cette Marche du Monde enregistrée au rendez-vous de l'Histoire de Blois et réalisée par Cécile Pompéani et Manu Pochaise. Réagissez sur la page Facebook de l'émission podcastée. Cette émission, c'est la vôtre.